Radio Kapi. Oh, Kapi. Nico Kalambay. À la une de cette édition, l'UNICEF et le PAM assistent 123 000 personnes affectées par les conséquences socio-économiques de la Covid-19. Le lancement officiel de ce programme a eu lieu ce jeudi à la paroisse Saint-Raymond dans la commune urbano-rurale de Lancélé. À Bounia, le bilan de l'attaque de la Codeco à Mambisa revu à la hausse, 16 morts et 40 blessés. Les chefs coutumiers condamnent ce énième massacre des civils et lancent un cri d'alarme au FRDC. Les cliniques universitaires de Graben viennent de lancer ce jeudi la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Il s'agit d'une initiative des femmes médecins traitant dans cette structure sanitaire. Pour en parler, nous recevons le docteur Justine Vouma. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette édition de nos informations. 20 500 ménages vulnérables de la commune de Lancélé, soit 123 000 personnes affectées par les conséquences socio-économiques de la Covid-19, bénéficient désormais d'une assistance monétaire. C'est le fruit d'un projet pilote conjoint mis en œuvre par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF et le Programme Alimentaire Mondial, PAM, avec le financement des gouvernements américains et britanniques. Objectif, atténuer les conséquences sociales et économiques de la pandémie. Le lancement officiel de ce programme a eu lieu ce jeudi à la paroisse Saint-Raymond dans la commune urbano-rurale de Lancélé. Jean-Pierre Elali Coco a assisté à l'événement.
C'est à 10h30 que la cérémonie a commencé. Projection d'un court-métrage sur l'intérêt du projet, des discours suivis des témoignages des bénéficiaires. Les États-Unis sont le premier intervenant dans ces projets, avec à la clé 10 millions de dollars américains. L'ambassadeur Mike Homer voit dans cette expérience une manière pour son pays de soutenir la RDC dans la lutte contre la corruption.
Mais ce programme, c'est très intéressant parce que ça commence à utiliser la digitalisation de l'argent pour éviter la corruption. Et ça, c'est très important parce que, comme on a parlé beaucoup, dans l'RDC, bon, le problème de la corruption, c'est un vrai problème. Et les États-Unis voudraient aider les efforts du président Tshisekedi pour lutter contre les antivaleurs. Mais ce programme ici, c'est bien fait à travers de notre partenaire d'UNICEF, de PAM, de World Vision, pour assurer que l'argent qui est donné, l'assistance, est pour les familles qui ont le plus besoin et pas des autres qui voudraient peut-être avoir cet argent.
Pour le représentant de l'UNICEF en RDC, Edouard Begbeder, l'enfant est le premier bénéficiaire de ce projet.
Des fonds qui arrivent au niveau d'un ménage lui permettent de continuer d'envoyer, d'aider ses enfants à retourner à l'école. Ils lui permettent d'avoir une bonne alimentation, de pouvoir avoir des amis.
Les directeurs pays du PAM mettent en exergue la collaboration entre les agences des Nations Unies et d'autres partenaires. L'un des partenaires, le premier, c'est le gouvernement, représenté ici par Mme Béatrice Lombeya, ministre du Genre et Famille.
En quoi est-ce que mon ministère a intervenu? Nous avons un questionnaire. Ce n'est pas par hasard que les partenaires sont venus distribuer les moyens. Non, c'est par rapport à un programme que nous avons élaboré ensemble. C'est par rapport à un questionnaire de départ déjà que le ministère avait confectionné hier.
Enfin, Mme Ndongo Marie, l'une des bénéficiaires, se réjouit.
Que Dieu bénisse les bienfaiteurs. Cet argent m'a relevé. J'étais dans la souffrance. Je mangeais difficilement. Je suis veuve. Cet argent est venu me soulager.
Notons que cette assistance monétaire s'est traduite par un vodacash de 90 000 à 150 000 francs congolais par ménage. La durée initiale de ce projet est de 3 mois.
Dégâts de la dernière pluie à Kinshasa, des centaines d'hectares de cultures sont détruites sur le site Rail 1, situé au bord de la rivière Njili, entre les quartiers Kingabwa et Petro-Congo. Des champs de riz, ngwélé et toutes sortes de légumes sont encore sous eau. 2 jours après cette pluie diluvienne, une grande désolation pour 1200 familles des maraîchères. Le président du site Rail 1, Marada Pongo, lance un cri d'alarme au micro de Freddy Lufulobo.
Toutes les cultures sont sous l'eau. Les riz, les légumes, et vraiment, les dégâts sont énormes. Le site renferme 1200 ménages, estimés à plus ou moins 6000 personnes. Ces familles ne savent pas à quel sein se vouer. Mais il y a aussi la spoliation qui rétrécit les sites avec les habitations. Alors ces dégâts touche directement les plus de 6 000 personnes et a aussi des conséquences indirectes sur la population qui consomme aussi ces légumes-là. Alors nous demandons aux autorités de porter aussi une solution pour que nous puissions reprendre nos activités. Sinon, nous ne savons pas qu'est-ce que deviendra Kinshasa demain à ce qui concerne les légumes. Parce que si vous attendez Matembele Yangwele, Ndunda Yangwele, ça vient de chez nous ici.
En Ituri, les autorités coutumières des chefferies de Ndo, Okebu et de Mambisa avancent un bilan de 16 morts et 40 blessés lors de la dernière attaque mardi des miliciens de la Codeco. Attaque survenue au groupement Tchélé dans le territoire de Djougou. D'autres corps des victimes ont été découverts après le retrait de ces assaillants de la zone. Ces chefs coutumiers condamnent ce énième massacre des civils et lancent un cri d'alarme au FRDC.
Ces miliciens de la Codeco ont fait incursion mardi à Garoua pour venger la mort d'un des leurs abattu par le groupe d'autodéfense Zaïre. 8 corps ont été retrouvés le même jour, dont un homme et une femme qui ont été surpris au champ, précise des sources locales. Les FARDC sont intervenus pour traquer ces inciviques. Pendant leur fuite, ils ont continué à commettre des exactions dans la zone. Le chef de la chefferie d'Endo Okebu précise que 8 autres corps, dont un policier et un militaire, ont été découverts après le retrait de ces hors-la-loi. Il y a eu également 40 blessés. Certains parmi eux sont admis dans des structures sanitaires locales. Drachou Baloufouga, un notable du milieu, estime que ces bilans pourraient s'alourdir car certains rescapés de cette attaque sont dans un état critique dans leur lieu de refuge. L'armée indique que ces miliciens sont déjà repoussés loin des zones de combat après avoir neutralisé une dizaine parmi eux. À l'heure actuelle, le village Guélé, Lalo et Tchélé sont vidés de leurs habitants. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au nord Kivu voisin, dans le territoire de Beni, secteur de Rwenzori, les mouvements des rebelles ADF sont signalés dans plusieurs localités de groupement Bassongora. Les acteurs de la société civile demandent à l'armée de renforcer les mesures sécuritaires dans la région pour éviter le pire. Des précisions avec Marc Marofimbo.
La dite alerte et des actions pour la paix en Afrique, APA, une structure de la société civile basée dans le secteur de Rwenzori. Cette organisation parle des mouvements et des renforcements en effectif des EDF dans la région environnant Kamango, Eringeti, au sud de la rivière Semuliki, dans les parcs nationaux de Virunga, ainsi que dans une partie de Karuruma. APA estime qu'il est temps que les autorités politico-administratives et militaires ainsi que leurs partenaires du domaine prennent des mesures préventives pour barrer la route aux probables attaques de ces rebelles. Nos efforts pour joindre les porte-parole des opérations Sokola 1 dans la région Grand Nord de la province n'ont pas abouti. Mais signalons que depuis la récente massacre de Bulongo qui a fait au moins 18 morts de civils, l'armée a renforcé son présence dans la région afin d'y sécuriser la population. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
L'actualité au Kasaï oriental, c'est la tenue ce jeudi de la parade de la PNC présidée au stade Kachala Bonzola par le commissaire général adjoint en charge des renseignements et de la police administrative, Philemon Patience Mouchidiav. Cette causerie morale s'est tenue en présence de 4 commissaires provinciaux du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Kasaï et de l'Omami. Au menu de cette parade, le commissaire général adjoint a évoqué la recrudescence des cas d'insécurité sur la ville de Mbujimayi, les meurtres, les enlèvements et les visites domiciliaires ces derniers jours. Le commissaire général adjoint en charge de renseignement et de la police administrative propose quelques pistes de solutions pour juguler l'insécurité dans l'espace Kasaï. Il est au micro d'Esther Ndalafina.
Les efforts doivent être conjugués pour amener le calme dans les grandes villes de l'espace Grand Kasaï. Le CCO, le Centre de coordination opérationnelle, a été enterré. Il n'existe que des noms dans la province du Kasaï oriental. Voilà pourquoi cet espace est dominé par la criminalité. C'est le CCO qui organise des patrouilles mixtes. La sécurité est l'affaire de tout le monde. Nous dénonçons cela et nous demandons que cela revienne rapidement pour le bien-être de notre population. Nous devons être organisés. J'insiste et je suis en train de crier pour me faire comprendre. En tout cas, les autorités doivent réactiver les CCO. Mais si cette histoire n'existe que des noms, je ne sais pas si Mbujimayi sera sécurisé par miracle. Les patrouilles mixtes, l'armée, la police, les services de renseignement, les gens travaillent ensemble. Mais qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Je demande l'implication de tout le monde pour relever ces défis de criminalité. Nous demandons à l'autorité politico-administrative de prêter main forte à l'armée, à la police, au service de sécurité. Même avec les moyens de bord, avant d'aller au développement, il faut la sécurité. S'il n'y a pas la sécurité, ce que vous êtes en train de construire sera détruit par les bandits. À la population, mais collaborez avec votre police, dénoncez les malfrats. Ne soyez pas complices pour regretter après. Ce n'est pas normal.
Cap vers les élections de 2023, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a rendu public ce jeudi 18 mars son agenda qui déroule une série d'activités pour la tenue des scrutins en décembre 2023. L'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO, a déclaré que cet agenda n'est pas une feuille de route pour combattre les acteurs politiques. Donatien Chollet, dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Nous tenons à ce niveau à apaiser les cadres, les militants des partis politiques et les groupements politiques sur le fait que l'agenda pour les élections 2023 de la CENCO n'est pas une feuille de route pour combattre les acteurs politiques. Il est en fait un programme planifié pour mobiliser la population autour de la question électorale afin que de son vote arrivent au pouvoir des personnes et programmes qui répondent à leurs aspirations. L'agenda pour les élections 2023 en RD Congo que nous lançons ce jour prévoit aussi des activités de plaidoyer et de médiation pour pallier aux problèmes ainsi qu'aux conflits qui surviennent souvent chaque fois que le pays s'engage dans le contexte électoral.
La RDC est un pays qui doit tourner totalement 24 heures avec son gouvernement et toutes les autres institutions. Tous les acteurs impliqués dans la formation du gouvernement doivent se ressaisir et se mettre en tête que tout le monde ne doit pas faire partie du gouvernement. Délice Sanga, députée nationale et une des têtes d'affiche du groupe des 13 parlementaires politiques qui le dit, pense qu'il faut dans l'avenir rationaliser le mode d'entrée en fonction du gouvernement. Il faut donc, dit-il, pour éviter ce passage à vide, supprimer la disposition qui astreint le gouvernement à une investiture préalable du Parlement. Délice Sanga le dit au micro de Billy Yvan Lutumba.
Nous avons des majorités parlementaires qui sont éclatées. Le gouvernement étant investi par l'Assemblée nationale, ça conduit généralement à des négociations politiques et d'apothicaires sur des détails, le partage de postes, qui prennent le pas sur même le programme que le groupe doit défendre ensemble. L'une des solutions, c'est de combiner deux mesures. Il faut faire évoluer progressivement notre mode de scrutin proportionnel vers un scrutin majoritaire afin d'avoir des majorités compactes. De l'autre côté, c'est de supprimer cette phase d'entrée en fonction du gouvernement qui l'astreint à une investiture du Parlement. Nous avons pensé dans la pétition de l'envol pour réviser la Constitution. Une fois que le Premier ministre est nommé, il forme son gouvernement. Celui-ci vient présenter son programme. Et s'il n'y a pas de motion de censure qui est déposée contre ce gouvernement est réputé être entré en fonction. La chose qui nous complique aujourd'hui, c'est que le fait d'astreindre le gouvernement à l'investiture, en l'absence même d'une motion de censure, conduit à des surenchères pour lesquels d'ailleurs les acteurs politiques ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout.
Au Kwilu, cela fait presque un mois depuis que les bureaux de tous les membres du comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique ISP de Bulungu, situé au chef-lieu du territoire du même nom, ont été scellés par le député national Massa Eyounou. Cela fait suite à un malentendu entre ce comité de gestion et la population après la révocation de quelques agents de cet institut supérieur par le dit comité de gestion. Selon l'administrateur du territoire de Bulungu, Bernardin Mwankimi, qui alerte, l'administration est paralysé, voulais-je dire, au sein de cette institution. Il demande que ces agents révoqués soient réhabilités à leur poste pour que l'ordre revienne, car selon lui, c'est cette révocation qui serait le nœud du problème. Irène Mboma pour des explications.
D'après l'administrateur du territoire de Bulungu, tout est parti de la révocation par les comités de gestion de cette institution d'enseignement supérieur de quelques agents, notamment des chefs de travaux, des assistants et des autres ouvriers. Bernardin Mwankimi explique mieux.
Parmi les agents qui étaient révoqués, la population a compris que la plupart se fient du côté Yansi et pourquoi pas le côté Mbala. C'est à partir de là qu'il y a eu des problèmes. Jusqu'à tel point, il y a eu l'honorable qui était venu sceller les bureaux des comités de gestion. Jusqu'à ce jour, les bureaux sont fermés.
Bernardin Mwankimi affirme que cette situation a entraîné la paralysie de l'administration au sein de l'ISP Bulungu il y a de cela un mois. Il plaide pour la réintégration des agents révoqués afin que l'ordre redevienne.
Il les étudiants étudient, mais l'administration est paralysée. Réintégrer d'abord ces gens-là, quand on les réintègre, après nous-mêmes là, on va les déceler. Puisque le problème d'abord, c'est le problème de l'intégration de ces gens-là. Il faut réintégrer ces gens.
Contacté à ce sujet, le directeur général de l'ISP Bulungu, le professeur Victor Kwema, indique que ces gens n'étaient pas révoqués, mais plutôt mis à la disposition de la hiérarchie qui a le droit de décider sur leur sort. Il appelle le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire à trouver la solution afin que les bureaux soient décelés. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 30 militaires maliens ont été tués il y a deux jours dans une embuscade dans la région de Gao, une attaque attribuée à des djihadistes contre lesquels des forces alliées à l'armée malienne, notamment Barkhane, sont intervenues. Selon l'armée malienne, les djihadistes ont également subi de nombreuses pertes. Et ce mercredi 17 mars, la situation a été sous contrôle dans cette région qui possède une frontière avec le Niger. Le président tunisien s'est rendu en Libye mercredi 17 mars, première visite d'un chef d'État au nouveau dirigeant du gouvernement d'Union nationale. Le menu de la rencontre était copieux, le sort des familles des djihadistes, la position vis-à-vis d'Israël et la coopération économique.
L'invité.
Les cliniques universitaires de Graben viennent de lancer ce jeudi la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Il s'agit d'une initiative des femmes médecins traitant dans cette structure sanitaire, initiative qui rentre dans le cadre de la célébration du mois de la femme. D'après le docteur Justine Vouma, l'une d'elles, à partir de lundi prochain, les bénéficiaires seront attendus et cela pour une durée de 2 semaines. Docteur Justine s'entretient à ce sujet avec Florida Kambou.
Docteur Justine Vouma, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Comment va-t-elle se passer cette campagne?
Les femmes concernées par cette campagne, nous allons prendre toutes les femmes à partir de 25 ans. Donc de 25 ans jusqu'à 65 ans, elles sont invitées. Nous commençons le 22 pour terminer le 31 mars. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons prendre toutes les mamans qui vont s'enregistrer pendant cette période-là. Donc du 22 au 31, pour respecter les mesures barrières étant dans la période d'épidémie, de pandémie à COVID-19. Elles vont s'enregistrer pour qu'on puisse prendre une moyenne de 15 personnes par jour, 4 fois par semaine, donc le lundi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Comme ça, les autres, même après le 31, qui se seraient déjà enregistrés, on va continuer à faire ce dépistage même au mois d'avril. L'enregistrement, et ça nous insistons, ça va du 22 au 31. On vient, on s'enregistre, on remet le jeton et nous allons prendre 15 personnes. Donc, il y aura une liste que nous allons élaborer et chaque lundi, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, nous allons prendre 15 personnes inscrites sur la liste à question. Nous demandons seulement une petite aussi contribution de 1 dollar. Donc, elles viendront avec 1 dollar et elles vont vraiment avoir tous les nécessaires pour le dépistage du cancer du col.
Est-ce qu'il y a un équipement suffisant pour cette campagne?
En tout cas, au niveau des cliniques universitaires du Graben, nous avons un centre de dépistage du cancer du col et pour le cancer du sein. Le problème qui se pose, c'est l'absence d'un financement pour équiper et pour appuyer correctement ce centre de dépistage. Alors, c'est comme ça que ça semble ne pas bien travailler parce qu'on est obligé de faire payer les malades qui viennent pour les problèmes de sein, pour les problèmes au niveau du col, alors que si on avait un organisme partenaire qui pouvait nous appuyer, ça serait vraiment un service qui serait très organisé. C'est pour cette raison-là que nous lançons vraiment un cri du cœur pour les gens de bonne volonté qui peuvent venir aider les cliniques universitaires du Graben. Et il s'agit seulement des petites cotisations des femmes médecins qui travaillent aux cliniques universitaires du Graben et l'assistance d'une religieuse oblate de l'Assomption qui s'est donnée aussi comme volontaire pour participer à cette activité-là.
Qu'est-ce qui vous a motivé, surtout en tant que femme médecin?
Ce qui nous a motivé, nous voulions aussi marquer une empreinte sur le mois de mars et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, avec le peu de moyens qu'on peut cotiser, nous avons le matériel, nous sommes là, donc nous allons aussi donner notre contribution à ce mois de mars pour faire ce dépistage, pour aider nos mamans pendant ce mois de mars.
Vous avez évoqué le problème des moyens, mais que les bénéficiaires de la campagne viennent seulement avec $1. En quoi $1 là va aider les cliniques?
Bon, ce n'est pas pour aider les cliniques le $1 là. La technique que nous allons utiliser, c'est le PAP test. C'est le matériel qui est disponible et c'est ce qui peut être facilement réalisable. Donc, dans la réalisation, le prélèvement. Le problème se pose maintenant pour la lecture des lames là que nous allons prélever. Nous avons notre médecin qui est en train de faire l'anatomie pathologie à Kinshasa et le $1 là va nous aider pour l'expédition de ces lames jusqu'à Kinshasa. Et lui aussi, il nous a dit qu'il va nous les lire aussi gratuitement pour avoir les résultats.
Quel message non seulement aux femmes bénéficiaires de cette campagne, mais aussi à toute la population et tous ceux-là qui peuvent venir en aide pour que les femmes bénéficient de ces traitements de manière permanente?
Oui, maintenant nous allons faire une prévention secondaire avec le PAP test ici, parce que la bonne lecture nous permet déjà de détecter un cancer qui pourrait survenir en 2031 et c'est déjà un avantage.
Docteur Justine Vouma, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous pour l'intérêt manifesté.
Ce journal s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.